Et aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps. Je pense que ce sera pas loin de 80 ans, si je ne m'abuse, mon cher Blaise.
5, Didier, pour être...
Combien?
Pour 85 ans, pour être précis. Et on va se concentrer sur deux dates, hein, le 17 et le 18 juin 1940. Alors, le 17 juin 1940, Philippe Pétain vient d'être nommé président du Conseil après la démission de Paul Reynaud, l'armée française qualifiée quelques mois auparavant de première armée du monde et l'ami en 6 semaines par la guerre éclair des divisions blindées allemandes. Plus de 90 000 soldats français ont péri. La débâclée totale, 1,5 million de soldats français sont faits prisonniers, 6 millions de civils errent sur les routes fuyant l'avance allemande. Les erreurs tactiques et stratégiques du haut commandement français et un matériel insuffisant, dépassé ou mal utilisé ont provoqué l'une des plus grandes défaites de l'histoire. Réfugié à Bordeaux, le gouvernement hésite entre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord et la demande d'armistice défendue par les flanchards, comme les désigne le sous-secrétaire d'État à la guerre, Charles de Gaulle. À midi et demi, le maréchal Pétain, 84 ans, déclare d'une voix chevrotante à la radio ceci.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander... Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
La majorité des Français sont alors épuisés et accueillent ce discours en faveur d'un armistice avec soulagement. Quelques-uns pourtant se disent révulsés, comme Germaine Tillon, cofondatrice quelques semaines plus tard du premier réseau de résistance. Le soir même, Daniel Cordier, jeune maurassien et futur secrétaire de Jean Moulin, rédige à Pau un tract contre le traître Pétain. Le démocrate chrétien Edmond Michelet et le communiste Charles Tillon font de même à Brive et à Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, sur l'aéroport de Bordeaux, le général de Gaulle, farouche opposant à l'armistice, embarque dans un avion britannique. Dans ce petit avion, écrira Winston Churchill dans ses mémoires de guerre, de Gaulle emportait avec lui l'honneur de la France. À son arrivée, il prend connaissance du discours de Pétain que l'armée allemande rediffuse régulièrement en France. Et de là, nous passons au 18 juin 1940 où à Londres, dans la matinée, Charles de Gaulle rédige une proclamation aux Français qu'il montre à Winston Churchill. Le cabinet de guerre britannique et Winston Churchill l'autorisent à l'enregistrer à 18h à la BBC. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent à Londres à se mettre en rapport avec moi, déclare-t-il. Une allocution diffusée à 3 reprises dans la soirée. Le futur chef de la France libre l'assure. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, et il conclura de cette manière.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
De Tanger à 23h, le capitaine Charles Luizet, futur préfet de police de Paris à la Libération, câble au général de Gaulle qu'il se mette à sa disposition. L'allocution est reproduite par la presse anglaise et par certains journaux français dans des régions non atteintes par l'armée allemande. Mais la portée de cet appel et de ceux des semaines suivantes reste infime. Sur les quelques dizaines de milliers de soldats français revenant de l'expédition franco-britannique de Narvik ou évacués de la poche de Dunkerque, moins de 200 resteront avec Charles de Gaulle. Ils seront rejoints par les 124 hommes valides de l'île de Sein une semaine après l'appel. L'appel du 18 juin reste pourtant l'acte de fondation de la France libre par un homme seul qui s'oppose à tous les responsables politiques et militaires français, armés de sa seule vision prophétique que le conflit va devenir une guerre mondiale.